Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Aujourd'hui, entre nous, on a deux vieux amis, dans tous les sens du terme. Ce sont des amis, ce sont mes amis. Et j'ai nommé André Ducharme.
Et ils sont vieux. Bonjour.
Ils sont vieux. On est tous vieux. Et Guilla Lepage.
Salut Sylvain, on peut dire trois vieux amis.
Oui, c'est ça. Comme Guilla Lepage, dans mon monde, il s'appelle Guy Lepage. Ou Tigui Lepage, ça dépend.
Ouais, ou Guidoun. Ou Guido.
Guido.
Ah, je me suis jamais rendu jusque-là. Comment ça va de votre côté, M. Ducharme?
Ça va pas bien, merci. Bonjour.
Bonjour. M. Lepage.
Oui.
Ben des affaires.
Ben oui.
Dont tout le monde en parle.
Ben oui, mais là, on est en congé de tout le monde en parle jusqu'au 19 janvier.
Merci
ben
de me le dire.
Mais le 19 janvier, c'est une originale, mais le 12 janvier, il va y avoir un best-of.
Oui, un best-of de la saison d'automne.
Déjà 16 ans.
Oui.
Oui.
André, 16 ans.
c'est long en tabarouette.
Je me souviens, au moment où tu as appris que tout le monde en parle, elle est entrée en onde et que tu en ferais partie.
Oui.
16 ans, c'était sur un terrain de golf, d'ailleurs.
Oui, oui, j'apprends toujours mes affaires sur un terrain de golf. Et habituellement, je dis à mes partenaires de golf, écoutez, je vais travailler un an ou deux là-dessus, on se revoit dans deux ans. Ça fait 16 ans, je ne les ai pas vus. C'est à peu près ça.
Non, mais de se trouver une pige, tout pigiste que tu es, de se trouver une pige qui dure 16 ans.
Ben, en fait, je vais essayer de résumer rapidement comment c'est arrivé. Je ne sais pas si Guy s'en rappelle.
Non, Guy se rappelle.
Guy se rappelle de rien. C'est un été, moi j'étais supposé commencer le tournage d'une série documentaire que j'ai fini par faire, Humour PQ.
Oui.
On a appris à deux jours du tournage qu'on était reporté d'un an. Et ça, j'apprends ça au mois de juillet. C'était ma job.
Et là, ton année est placée.
Mon année est placée. Quand tu apprends au mois de juillet que tu perds une job, ça veut dire que tu n'en as plus.
Tu n'as plus de job.
Et Guy et moi, on avait un tournage à la ronde ensemble. Ça, tu t'en rappelles-tu?
Oui.
Bon!
Oui.
Et je raconte ça à Guy, puis Guy dit, écoute, quel heureux hasard, j'osais pas t'en parler, je pensais que tu allais être occupé, mais on vient de m'offrir, tout le monde en parle, et j'aimerais que tu travailles avec moi là-dessus. C'est comme ça que ça a commencé.
Mais 16 ans, 16 ans de tout le monde en parle, ça dépasse la longévité du tout le monde en parle de Thierry Ardisson.
Ben, du double.
De loin,
ben,
oui.
Il a fait 7 ans, ça dépasse même Rocky Belles-Oreilles à temps plein.
Absolument.
Parce que Rocky Belles-Oreilles, à temps partiel, ça fait 39 ans, mais à temps plein, on a fait 14 ans.
14 ans, oui. Ce qui veut dire qu'on a travaillé ensemble à temps plein pendant 30 ans.
30 ans. Et moi, juste les autres trucs que j'ai faits, Camping Sauvage, André était dessus, c'est lui qui l'a co-écrit. Mm-hmm. Un gars, une fille, il a écrit des textes pour un gars, une fille. Ouais. Puis même Bébéatrice, il fait des voix pour
Bébéatrice. Mais un gars, une fille, c'est vraiment la gaffe de ma vie parce que je suis arrivé vers la fin, les deux, trois dernières années. C'est le seul projet auquel j'ai pas fait partie dès le départ. Et si ça avait été le cas, probablement que j'aurais une plus grosse maison. De loin. Mais à l'époque, j'étais très occupé, puis Guy faisait ses affaires, je faisais les miennes, puis c'est ça.
Je confirme pour la maison.
Oui, je sais.
Revenons à tout le monde en parle.
Oui.
16 ans pour un talk show. On ne pourra pas dire que vous avez inventé les talk shows comme tels, des invités, des chaises, des micros, puis un rendez-vous hebdo. C'est pas la première fois que ça se faisait dans l'histoire de la télé, mais 16 ans, ça devient une exception.
Bien, ce dont on n'était pas habitué en Amérique du Nord, c'est qu'un talk show en Amérique du Nord, c'est du one-on-one. C'est à la Johnny Carson,
la formule américaine,
à la David Letterman, etc. En France, et il faut donner à Thierry Ardisson ce qui lui revient, mettre autour d'une table les 7 ou 8 personnes qui ont fait l'événement de la semaine, puis les faire discuter, slash se pogner, slash s'émouvoir, slash s'engueuler. Ça, c'est son idée. Puis tu tournes ça avec des caméras partout, tu fais tourner tous les mags, alors tu as tout ce qu'il faut pour faire une émission de télé. Ça, c'est son idée.
Et le montage aussi.
Et le montage.
C'est ça, c'est de la façon française de faire de la télévision, pas juste les talk shows, parce qu'il y a d'autres émissions françaises de ce type-là. Les enfants de la télé, d'ailleurs, c'est français, et c'est fait un peu de la même façon. C'est-à-dire que tu tournes effectivement beaucoup plus que ce que tu as besoin et tu gardes l'essentiel, tu retiens l'essentiel et tu tournes multicaméra. Donc, tu as toujours la possibilité de voir la personne que tu veux voir au moment que tu veux la voir à l'écran.
Ouais.
Et ça, ce know-how-là, comme on dit en bon français, on ne l'avait pas ici. Et c'est pour ça, tu sais, les gens demandent comment ça se fait que ce concept-là a été acheté, parce que Radio-Canada a acheté le concept. Mais il a surtout acheté la façon de faire, parce que ça, on ne connaissait pas cette façon de
cette
faire la télé.
Cette mécanique-là.
C'est parce que ce qu'on met dans l'émission, ben, ça nous appartient. C'est l'équipe de recherche, c'est André et moi qui décidons ce qu'il va y avoir dans le contenu de l'émission.
Mais Guy, tu parlais des interactions dans l'émission d'Ardisson, puis souvent des engueulades, ces affaires-là. Est-ce que je me trompe ou la version québécoise de Tout le monde en parle? Il n'y a pas tant d'interactions que ça entre les invités. Est-ce que vous souhaiteriez en avoir plus ou vous êtes Vous êtes content de ce niveau d'interaction-là?
Bien, ça dépend des émissions. On l'a mis la dernière émission qui a été diffusée, ça brassait pas mal, mais c'est pas nous qui décidons ça.
Ben non.
C'est les gens, puis des fois, écoute, je me rappelle une fois, on reçoit Justin Trudeau, qui se présentait en politique, je pense, puis on s'est dit, on va l'asseoir à côté de Luc Picard. Puis là, c'est ceux qui vont se pogner, tu sais, parce que c'est deux mondes au niveau de l'orientation politique. Et Luc l'a écouté très poliment.
Respectueusement.
Pendant toute l'entrevue, puis il n'a pas posé une question. Il n'a même pas fait une face de désapprobation.
Et des fois, c'est le contraire. Des fois, tu as des invités que ça sort de nulle part. Il y a quelque chose qui se dit, ça les touche dans leur vie personnelle et on n'était même pas au courant. Et là, il y a quelque chose qui sort, un invité décide qu'il confronte ce que quelqu'un vient de dire. Et puis là, ça donne un moment télé. Mais il faut aussi dire que culturellement, puis moi, je le vis aussi avec un souper presque parfait qui vient également d'une autre culture, qui vient de la culture anglaise.
C'est britannique, quoi.
C'est britannique. Et il y a des choses qui se font dans les versions originales qui ne se font pas dans les adaptations québécoises parce qu'on est différent.
On est très vivre et laisser vivre.
C'est ça.
Puis c'est seulement quand ça nous choc où ça nous heurte vraiment que l'on dit « wow, un instant ». Sinon, ben on laisse les personnes s'exprimer. Mais si tu m'avais dit qu'un jour, Mitsu était pour pogner les nerfs après le Doc Mayou.
Ouais, c'est un bon exemple, ça.
Puis parce qu'elle a été choquée par ce qu'il racontait. Ça, c'était imprévisible. Puis il y a des gens qui nous ont dit, vous avez fait exprès pour placer Mitsu.
Oui, les fameux guet-apens.
Ben, si on avait voulu faire un guet-apens au Doc Mayou, on aurait mis Grégory Charles, Frédéric Pierre, Normand Brathwaite. On savait même pas que Mitsu était touché par ce sujet-là. Et elle a bien fait, d'ailleurs, de pogner les nerfs, parce que c'est ce qui méritait ce bougre.
À ce moment-là, mais souvent, quand ces moments-là arrivent, on est les premiers surpris. C'est drôle parce que oui, il y a une espèce de mythe autour de tout le monde en parle en disant ils font exprès pour qu'il arrive ça. Ils ont invité un tel en réaction à un tel. C'est jamais le cas. Et quand on invite quelqu'un en réaction à quelqu'un, on le dit. On le dit. Vois-tu, c'est un débat. On a un tel, on parle de telle affaire. Ouais. Mais très, très, très souvent, quand un invité réagit fortement à quelque chose, on est les premiers surpris. On se regarde, coudonc, qu'est-ce qui est en train d'arriver là?
On est surpris, mais on est content.
Ben oui,
on va revenir très, 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 très loin dans le temps. Tout le monde en parle, je pense. C'est la deuxième émission. Il y a Raël qui est invité.
Oui.
Raël.
Au-delà du Raël.
Oui, c'est ça. Sur le même panel, si ma mémoire est bonne, il y avait évidemment Serge Chapleau, si on s'en rappelle. Il y avait aussi Pauline Marois.
Oui, puis Louis-José Houde de mémoire.
Bon. Oui, Louis-José Houde qui était très mal à l'aise dans tout ce qui se passait.
Oh, il y avait une face de chevreuil sur l'autoroute, mais quand même ravi d'être
là. Je suis content d'être là, mais j'aimerais mieux être ailleurs.
Ouais. Si, imaginons, tout le monde en parle pour la lancée de cette émission-là, sans la présence de Raël, est-ce que c'est le coup de Raël qui a fini par mettre tout le monde en parle au monde?
Ben, disons que la première émission... il y avait eu un invité qui était parti, qui s'appelait Patrice Demers. Il y avait déjà eu une controverse à la première émission. Puis, tu sais, les gens, des fois, ils nous disent, « Il me semble que tout le monde en parle, c'est adouci. » Moi, je pense que c'est surtout que les invités sont beaucoup, beaucoup mieux préparés.
Ouais.
Ils arrivent là en se disant, « C'est sûr qu'ils vont me parler de telle affaire. » Puis des fois, tu dis, « Mon Dieu, il a bien répondu. » Mais je peux te dire que backstage, là, c'est le festival des avocats, des conseillers politiques, des...
Il y a des gens qui, la veille de leur entrevue, tout le monde en parle, vont se faire une répétition avec des conseillers, là, des gens autour d'eux, et pas seulement pour des entrevues politiques.
Comme un débat. Comme, finalement, comme
genre, tu viens, tout le monde en parle demain, viens-t'en, on va se pratiquer. Il va te poser telle question. D'ailleurs, je suis déjà tombé, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait oublié
ses notes.
Un ou une ministre, on dirait pas quel genre.
Là-dedans, il y avait des questions qu'on n'a jamais posées. Il s'était préparé pour des affaires. Ça ne nous intéresse pas de parler de ça. Tu t'es beaucoup trop préparé pour une entrevue.
Mais moi, pendant l'émission, là, je suis soit sur dans le studio ou dans ma loge, mais il y a une histoire backstage de Tout le monde en parle à laquelle je n'ai jamais accès, là. Des histoires du monde qui se font virer, du monde qui sortent, des espèces de gens qui veulent essayer de magouiller, puis on les envoie promener. Là, il y a des gens, Carole-André Laniel, notre chef recherchiste, Guillaume L'Espérance,
qui sont là depuis le début, là,
ça, qui ont toutes vu ça. Là, puis des fois, maintenant, ils me le disent même plus, mais au début, ils disaient, si tu savais ce qui s'est passé entre telle personne, puis je suis jamais au courant.
Mais souvent, Guy, t'es pas mis au courant de ces choses-là. André, toi, tu sais plein de choses qui ne se rendent pas à Guy.
Pas tant que ça, non.
Parce que toi aussi, t'es isolé.
Moi, je suis plus... Je suis plus du côté de Guy dans ces trucs-là. On travaille plus en tandem. Moi, il y a bien des affaires, puis c'est aussi de nature. Moi, je suis pas une fouine. Fait que moi, ces potinages-là, ça m'intéresse pas à tout. Je m'intéresse même pas au potinage des gens que je connais. Fait qu'imagine les gens que je connais pas. Je suis pas là-dedans pantoute. Là. Fait que je suis pas toujours au courant de ces choses-là. Ça se passe plus du côté de Carole-André Laniel et de Guillaume L'Espérance au niveau de la production. Puis nous autres, Guy et moi, c'est plus au niveau du contenu qu'on travaille.
Mais probablement que si tu faisais une entrevue avec ces deux-là,
ouais,
je l'écouterais attentivement, j'apprendrais plein d'affaires que je savais pas.
Ouais. Ce qui est spécial dans le cas de Tout le monde en parle, c'est qu'on dit que c'est une émission de débat, bon, où des fois, effectivement, la chicane peut prendre. Mais les plus grandes foires d'empoignade à Tout le monde en parle sont pas nécessairement arrivées sur le plateau, mais sur les réseaux sociaux au lendemain d'une émission, ou même pendant une émission.
Ben écoute, la principale raison pourquoi je me suis inscrit sur Twitter il y a plusieurs années, c'est parce que à chaque fois, il y avait des couvertures le lendemain de Tout le monde en parle, puis pendant la semaine, et c'était toujours les théories du complot. Mmh. Ils n'ont pas invité telle personne à cause de ça, puis on faisait des entrevues, puis il fallait juste expliquer que la seule raison pourquoi lui était pas là, c'est parce qu'il était à Hong Kong.
Ouais.
Puis qu'il pouvait... Mmh. Alors là, en me mettant sur Twitter, je le disais automatiquement, alors là, je brisais toutes les théories du complot. C'était non, on l'a invité. Oui, on l'a invité. Puis des gens nous demandent encore, là, pourquoi vous n'avez pas pensé d'inviter telle personne qui a fait l'actualité? La réponse est « Hey, le cave, on est 6 recherchistes. On y a même pensé avant que tu commences à te réveiller. Alors, s'il n'est pas là, il y a une excellente raison pour laquelle
mais toi aussi,
pas là.
André Charme, tu réagis sur Twitter.
Oui,
peut-être
mais...
pas de la même, pas être le même ton de Guy.
Non, ben, tu sais, il y a toujours la bonne et la mauvaise police.
Oui.
Moi, je suis la bonne police. Non, c'est que Guy, lui, puis je comprends parfaitement. Moi, je me fais un petit peu interpeller, j'allais dire écœuré, interpeller sur les réseaux sociaux, mais c'est rien comparé à Guy. Et probablement que si je me faisais interpeller autant que Guy se fait interpeller et de la façon qu'il se fait interpeller, je réagirais de la même manière. Guy est plus.
Sanguin.
Direct.
Mais Guy, tu pourrais refuser d'embarquer là-dedans. Tu pourrais facilement dire « Ah, je vais avoir un chargé de compte Twitter, puis organisez-vous avec ça. »
Moi, je refuse,
c'est pas dans ta nature du tout.
Je refuse de me laisser insulter même par le plus crétin qui soit, qui s'appelle Nordique69, qui se trouve une photo de loutre à la place de sa face. Je les méprise tous, puis quand quelqu'un m'écœure, j'y réponds. J'ai toujours fait ça, je vais toujours continuer de le faire. Si je le faisais pas, c'est là que je serais fâché.
Est-ce qu'on t'a suggéré de ne pas participer à ça?
Bien, on m'a suggéré de pas... En fait, ce que je fais maintenant, c'est qu'au lieu de partir une discussion de 3 ou 4 répliques, j'en fais juste une.
OK.
Moi, je fais 3-4 répliques.
Oui.
C'est ça. C'est là où on est différent. Moi, souvent, quand on m'interpelle comme ça, je réponds par un gag plutôt chien, à double sens, que si la personne le comprend, on va avoir un dialogue. S'il le comprend pas, ça va être fini. Guy, lui, c'est plus blablabla, va chenoute mon torieux, et je suis poli. Puis souvent, la réponse que les gens donnent, c'est « il a changé, Guy Lepage ». Et là, j'ai envie d'intervenir en disant « non, il a pas... » Oui, en fait, oui, il a changé, parce que il y a 20 ans, il t'aurait reviré encore plus raide que ça.
Ouais.
Ben oui, je suis smooth, moi.
Il est
par
rendu
rapport,
gentil.
Des fois, les gens ils disent, toi, t'as vraiment changé. Ils disent, boy, vous m'avez pas connu à 20 ans.
Non, mais il y a quand même de quoi quelque chose d'étonnant là-dedans. C'est comme si Piqué Souban avait répondu à tous les tweets qui ont suivi sa première visite au Centre Bell cette année. Où là, tu te dis, à un moment donné, ça te tente pas
non, mais il a peut-être raison. Fait un tweet ou deux très gentil, très gentleman, parce que je pense que c'en est un.
Oui.
Mais tu sais, le hockey, de toute façon, suscite une espèce d'engouement de commentaires qui a aucune allure. Je réfléchissais à ça ce matin. Là, présentement, je sais pas ce que ça donne rendu au jour de la diffusion, mais au moment de l'enregistrement de l'émission,
on
est pré-enregistré. On a une équipe de marde qui arrête pas de perdre.
Mm-hmm.
Et tout le monde, les amateurs, les journalistes, dans les journaux, tout le monde parle de ça en donnant son avis.
Ouais.
Alors que ce qu'on a au moment où on se parle, c'est une émission, c'est une équipe bien ordinaire qui joue pas bien. C'est comme si on prenait une émission de télévision bien ordinaire qui va pas bien et que tout le monde commençait à ne parler que de ça, en parlant pas des autres émissions, en ne parlant que de ce sujet. Moi, je trouve que c'est une perte de temps hallucinante. Moi, j'appelle ça notre unique projet de société. J'écris ça souvent sur les réseaux sociaux. Notre unique projet de société vient de perdre pour la 8e fois consécutive. Puis là, je me fais engueuler. Si t'aimes pas ça, écœure-nous ou pas avec tes opinions. Ouais. J'adore ça, faire ça, ça me met bien de bonne humeur.
André Ducharme, oui. Est-ce qu'on est rendu dans une culture de compte à rendre ou de compte à recevoir, je le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on se demande des comptes beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais, ben, moi, il y a quelque chose que j'ai observé, puis ça vient beaucoup, beaucoup avec les réseaux sociaux, parce que les gens se manifestent, les gens t'interpellent, et c'est comme si, tu sais, on est vraiment dans une société d'individualistes.
Oui.
Chacun veut que l'émission de télé qu'il regarde lui correspondent à 100%. Nous autres, ça arrive souvent, à tout le monde en parle, on annonce nos invités, et là, on reçoit des messages genre « Ah, oh, vous avez invité un tel, je regarderai pas l'émission cette semaine.
»
Ou, encore plus grave que ça, « Ça fait 16 ans que je vous regarde, mais parce que vous avez invité un tel, je vous regarderai plus jamais. » Et ça, c'est pas rare, ça. C'est à chaque semaine, on reçoit ce genre de commentaires-là. Puis moi, je réponds très, très souvent, excusez, on n'a pas encore trouvé une façon de faire du illico sur demande avec notre émission. Dressez-nous la liste des invités que vous voulez voir, ben ça va être ça, qu'est-ce que tu veux.
Et soit c'est pas vrai, puis ils le regardent quand même,
oui.
Ou ils sont instantanément remplacés par un autre téléspectateur.
Par quelqu'un d'autre qui veut voir cette personne-là.
Parce que nous, ça change absolument rien.
Les cotes,
c'est tout au-dessus du million de toute la saison d'automne au complet. Quand les confirmés arrivent, c'est tout le temps, c'est entre 1,050 million et 1,280 million.
Mais ça aussi, c'est étonnant, après 16 ans, que la fameuse messe du dimanche, alors qu'on est en perte de rituel,
ouais.
Ce que l'on appelle la messe du dimanche, elle soit encore aussi fréquentée par un volume semblable.
Mais il y a quand même eu une diminution. Et ça vise pas seulement Tout le monde en parle, ça vise toutes les émissions de télévision. Tout le monde en parle, j'ai observé, puis nous, je sais qu'on en parlait à l'époque, parce que pendant très, très longtemps, Tout le monde en parle n'était pas disponible sur aucune autre plateforme. Maintenant, tu peux te rattraper sur, voyons, comment ça s'appelle le truc de Radio-Canada?
Tout.tv.
Tout.tv, c'est ça. Exactement. Donc, quand ça s'est arrivé, ben au lieu d'avoir, mettons, 1,450,000, on avait 1,200,000. Mais le 250,000 qui est là, ça veut pas dire qu'il regarde pas l'émission. Ça veut dire qu'il ne regarde pas l'émission
là.
Ou enregistré. Il va la rattraper sur les réseaux sociaux. Il va regarder, mettons, sur 6 entrevues, il va regarder 3 entrevues qui l'intéressent plus. Ça, ce phénomène-là, il est plus récent. Et il s'adresse à toutes les émissions de télévision.
Ce que j'ai appris récemment par la directrice des programmes de Radio-Canada, c'est que Tout le monde en parle est l'émission la plus populaire au Canada, au Québec. Voyons, les francophones hors Québec.
Oui.
De loin.
Ben oui.
C'est 300-400 000 personnes, quelque chose comme ça.
Et je pense, sans me tromper aussi, pouvoir dire que c'est également l'émission la plus populaire chez les anglophones du Québec. L'émission la francophone la plus regardée par les anglophones du Québec.
Sauf qu'en même temps, quand on regarde l'importance que Tout le monde en parle peut avoir, je rappelle qu'on est avec Guillaume Lepage et André Ducharme, quand on voit l'impact que ça peut avoir, quand on voit ce que ça a pu avoir, ça a pu changer dans la vie politique de Jack Layton, il y a quelque chose là. Je peux comprendre aussi que le reste du Canada puisse se dire « Ah, voilà une émission de référence. »
Ah, ben dès qu'il y a un politicien fédéral qui vient, il y a une couverture...
pan-canadienne,
oui. Oui, cause to cause, comme on dit en français, dès le lendemain, l'émission est régulièrement citée. Au fil des années, avec les artistes européens et les artistes américains, on a développé des relations. Alors, à chaque fois qu'il y en a un qui vient à Montréal, Tout le monde en parle devient un passage quasi obligatoire pour eux. Ça, c'est le fun.
S'il n'est pas obligatoire, au moins, il est minimalement automatique.
Ben écoute, j'ai une anecdote très drôle. Ouais. Il y a 3 ans, j'arrive début septembre, je regarde le tableau, il y a 2 personnes de bouquet. Patrick Huard, pour la dernière émission, parce qu'il vient... parler de son film, je pense que c'était Bon Cop, Bad Cop 2, et Taylor Swift. Puis là, je regarde le tableau, puis je dis, c'est un gag, ça? Carole André dit non, Taylor Swift va venir à Tout le monde en parle. J'ai dit, mais mon Dieu, qui l'a appelé dans l'équipe? C'est eux qui nous ont appelés. Alors, ça veut dire qu'ils ont ciblé Tout le monde en parle, Montréal, pour venir lancer son nouveau disque.
Mais ça, André...
Oui.
Ça peut aussi être un danger en quelque part. C'est-à-dire que les artistes ou les personnalités qui sont invitées, Tout le monde en parle, est-ce que c'est des gens qui correspondent à l'offre du moment ou à vos désirs?
Je dirais les deux.
Ben oui, les deux.
Les deux. Tout le monde en parle.
Mais est-ce qu'il y a des émissions, des fois, où le panel arrive, tu te dis, Bon, mais c'est parce que c'était eux autres qui étaient libres cette semaine-ci.
Non, c'est eux autres qui étaient dans l'actualité.
OK.
C'est ça la différence. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un qui me disait un jour, t'invites juste tes amis. J'ai dit, si j'avais invité juste mes amis, l'émission serait terminée depuis 2006.
Oui, parce qu'il y a le fameux mythe où Guy Lepage connaît tout le monde et tout le showbiz se connaît, on est tous des amis, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça arrive très souvent qu'on soit des artistes et Guy ne connaissait pas vraiment avant qu'on décide de le recevoir. Puis là, il écoute le disque et là, oui, il trippe. Là, ça devient son meilleur ami, mais pas avant.
Mais c'est vrai que je connais plein de monde, mais c'est parce que ça fait 39 ans que je suis dans le milieu. On est des vétérans.
Le contraire serait assez étonnant.
Ben oui, connaître personne. Exactement. Fait que oui, je connais pas mal tout le monde au Québec, mais je les fréquente pas tous, loin de là.
Je voulais revenir sur la théorie des complots. Des invités qui se présentent à Tout le monde en parle, qui donnent une entrevue et qui ne font pas partie du montage final. C'est arrivé en 16 ans à quelques reprises, pas très souvent, mais ça arrive.
Oui.
Et là, généralement, les théories du complot
s'activent
à peu près.
Oui, oui.
Sans nommer personne.
Écoute, il y a eu quelques cas que c'était carrément pour des raisons légales.
Oui.
C'est-à-dire, ou judiciaires.
Ou judiciaires, c'est ça. Quelqu'un qui est impliqué dans une cause et que finalement, l'entrevue, si elle était diffusée, pourrait nuire à ce que cette personne-là doit défendre éventuellement. Bon, ça... tu peux pas t'opposer à ça. C'est arrivé une couple de fois que c'était parce que l'entrevue était carrément plate.
Des invités super performants.
Et aurait desservi si on avait diffusé. Et avec le recul, honnêtement, je me dis, on aurait dû diffuser ces entrevues-là. Parce qu'au lieu de se faire dire, vous avez pas diffusé l'entrevue parce que vous vouliez pas que telle ou telle chose se dise. Premièrement, si cette personne-là est là, c'est parce que on a voulu qu'elle soit là. C'est parce qu'on voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Et si cette personne-là, l'entrevue s'est pas rendue en onde, c'est parce qu'elle a peut-être pas dit ce qu'elle était supposée dire, puis que finalement, elle a rien dit, puis que c'était plate. Et que si on l'avait diffusé, ben, les gens auraient changé de poste. Mais peut-être qu'on aurait dû, à ce moment-là,
puis
les diffuser.
Il faut surtout dire qu'il y en a eu peut-être 5 sur 3500 entrevues.
Oui, mais c'est 5 dont on parle
dont
beaucoup.
On parle tout le temps.
Oui, mais moi, j'adore les statistiques et les mathématiques, puis j'ai pas beaucoup de temps à perdre sur des discussions qui représentent 0,03%
de... je peux dire que quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, on finit l'entrevue, et nous autres, à chaque fois qu'on termine une entrevue, je me dirige dans la loge de Guy avec Guillaume L'Espérance, le producteur. On entre dans la loge, et ça a pas pris 5 secondes. Qu'à 3, on a dit, on passe pas ça. Ça n'a pas été un débat, là.
Non.
C'était. Hey,
garde, je vais donner un exemple.
Ça crève les yeux, puis ça bouge les oreilles.
On est à Paris, on enregistre, tout le monde en parle à Paris. C'est arrivé une fois, sur le plateau de Laurent Ruquier. Il nous avait prêté son plateau. On soit Emmanuel Seigné, la femme de Roman Polanski. Et ça donne que cette journée-là, évidemment, il redevient sur la sellette parce qu'il y a une histoire encore de procès de pédophilie.
Ça lui arrive régulièrement de remonter sur la sellette.
Oui. Alors là, je lui pose, je parle à Mme Seigné, puis je lui pose des questions sur son film, puis tout à coup, j'y pose une question sur son mari, puis elle dit, ah mais non, on ne va pas parler de ça. J'ai mis fin à l'entrevue, puis on est parti derrière, j'ai dit, débarque là du plateau. Son entrevue passera pas. J'ai pas envie de faire une émission avec Emmanuel Seigné, à qui je ne parle pas de son mari. L'éléphant n'est pas juste dans la pièce.
Il est partout.
Il est bandé, hostie.
Il n'y a plus de linge.
Ben oui, fait que je l'ai débarqué du plateau en 4 secondes et quart. Puis je me rappelle que les techniciens avaient dit, « Ah, mais il a du culot, il a viré Emmanuel Seigné. » Mais moi, j'en ai rien à foutre d'elle, je veux dire. Elle veut pas répondre aux questions, décolle.
Bon, ben pour ceux et celles qui ne l'ont pas reconnu, c'est Guillaume Lepage, accompagné d'André Ducharme. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de la pause et on se retrouve tout de suite après pour la poursuite de cet entretien dans le cadre de la série Entre nous.